C'est le passage de Gédéon, Juges 6. On va lire de 1 à 7. Livre des Juges, de 1 à 7. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Et lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. On va lire un autre extrait de Gédéon dans le prochain chapitre, chapitre 7. Versets 1 à 8. Yérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi. » Et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fait descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapperent l'eau, en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. Alors l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Ils prirent les provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. Et puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Et le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Le verset 22 aussi, les 300 hommes, donc on reste avec ces 300, sonnèrent du cor, et dans tout le camp l'Éternel tourna l'épée les uns contre les autres. On termine par un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 1. Et verset 27. Voilà ce qui est écrit. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Ce passage serait trop long pour le prendre en détail dans les temps qui nous sont impartis, mais j'aimerais vous faire comprendre ce qui s'applique aujourd'hui dans nos vies. Gédéon, qui a été appelé par Dieu pour délivrer Israël, était en face d'une armée. La Bible dit dans les versets que vous pouvez lire dans ce passage des juges, était tellement innombrable qu'elle remplissait toute la vallée, on n'en voyait pas le bout. C'était énorme, énorme. Quand Gédéon fait l'appel, fait l'appel pour demander aux hommes d'Israël, ils étaient 32 000. La Bible ne dit pas combien ils étaient en face, mais certainement plus de 320 000, voire plus, donc plus de 10 fois. C'était une bataille perdue d'avance sur le plan humain. Quand une bataille est perdue d'avance sur le plan humain, on se sent dépassé. Et parfois, en tant que chrétien, là, on saisit le Seigneur. Mais quand les batailles sont un peu moins fortes, on a tendance à prendre les choses en main. Ne le faisons pas, même si c'est moins dur. Mais là, on voit, disons, une analogie entre ce qui nous attend en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, de ceux qui veulent être fidèles au royaume de Dieu, et en face, la marée de la puissance de l'ennemi avec tous ceux qui sont en rébellion contre Dieu, et ils sont énormément nombreux. Eh bien, on ne peut que compter sur Dieu. Là, on voit vraiment la bataille qui est gagnée par Dieu. Et quand Dieu veut faire gagner une bataille, eh bien, il veut que sa gloire lui revienne. Moi, personnellement, je me suis converti à Jésus-Christ en 1967. Quand on m'a parlé de la guerre des six jours en 67, en juin 67, je ne sais plus exactement les dates, début juin, en six jours, Israël a gagné une bataille qui était absolument impossible de gagner humainement. On a fait un jour, tout un week-end, voilà. Une journée sur ce sujet. Ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent accéder, on peut leur donner les vidéos de ce qui était filmé à l'époque. Et on voit par exemple en Syrie, ils étaient quelques chars d'Israël, et en face il y avait tous les chars sur le Golan qui étaient là. Et l'histoire nous dit que voilà, ils étaient désespérés avec les jumelles, ils voyaient les chars avancer, c'était terminé. C'était le laminage. Puis d'un seul coup, tout le monde retourne. Les chars s'en vont dans l'autre sens, repartent en Syrie. Et après, quand ils ont interrogé les généraux syriens, ils ont dit, il y a un ange qui est apparu avec une épée. Et là, on savait que c'était terminé. On ne pouvait plus rien faire. Et ils sont partis dans l'autre sens. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est une bataille qui a été voulue pour que le Seigneur puisse permettre à Israël d'être un témoin de cette fin des temps qui se termine, où Israël est toujours dans la main de Dieu. Par contre, on a vu aussi sur les vidéos que quelques années après, 2-3 ans, eh bien, Israël a rendu gloire à Tsahal, c'est-à-dire à l'armée, au lieu de rendre gloire à Dieu. Et ils ont tout perdu. Vous savez, quand on tombe dans l'idolâtrie, l'idolâtrie de l'homme, l'idolâtrie de la puissance, l'idolâtrie de la domination, l'idolâtrie de tout ce qui est sur le plan humain, on perd tous les bénéfices qu'on a eus. Et ça, je vais revenir là-dessus, c'est l'enseignement de Gédéon. L'enseignement de Gédéon. Parfois, on a des batailles, mais ce n'est pas parce qu'on gagne les batailles que c'est une occasion de se reposer sur ses lauriers. Il faut rester vigilant, parce que l'ennemi est toujours là. Le prince de ce monde est là. Dans ce monde présent, c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Sauf pour les chrétiens qui acceptent Jésus dans leur vie et pour ceux qui continuent à l'accepter. Ce n'est pas le tout d'être né de nouveau une fois. C'est ensuite, après, devenir disciple de Jésus. Et ça, c'est à chaque instant renoncer à soi. Il n'y a que là que Jésus peut régner dans notre cœur. C'est un peu l'histoire de ce que nous voyons ici. L'Église, qui est une poignée sans armes, charnelle, on vient de le voir, Dieu, il nous donne la victoire par des choses folles, par des choses viles. La croix, c'est vil, c'est fou. Et c'est là que Dieu nous a donné la victoire. Amen. Et ça continue. Si nous comptons sur nos forces en tant que chrétiens, c'est pas la peine. Nous allons nous glorifier nous-mêmes. Et nous allons tomber sous le coup de l'ennemi, parce qu'on donne des droits à l'ennemi dans ces cas-là. Et nous perdons toute la victoire. On va le voir à la fin. Alors je reviens au début de cette histoire de Gédéon. C'est intéressant de voir que il est dit que Dieu livre Israël à Madian. Madian, c'est les ennemis qui sont vraiment des sauvages. Des sauvages. Ils venaient faire des razzias, vous l'avez entendu dans le texte, et ils attendaient que l'Israélite avait fait toutes les moissons, enfin juste au moment où on va tout engranger pour l'hiver, eh bien c'est là qu'ils venaient tout détruire. Et ça a duré 7 ans. 7 ans, c'est le chiffre de Dieu. C'est Dieu qui a permis que Israël soit soumis à cette épreuve. Parfois, nous avons des épreuves, nous voulons qu'elles s'en aillent, mais si c'est le Seigneur qui le permet, il faut lui demander, Seigneur, pourquoi tu permets cette épreuve? Parce qu'il veut nous apprendre des choses, il veut nous corriger, il veut nous aider à grandir. Vous savez, avec Michel, on se dit souvent que le plus grave pour des serviteurs de Dieu, que nous sommes aussi, hein, c'est quand Dieu ne nous corrige plus. Ça veut dire qu'il a abandonné avec nous. Il y a des serviteurs où on voit que Dieu ne corrige plus. Parce qu'il a cherché à le faire. Et il ne change pas. Et là, il faut vraiment remercier le Seigneur. S'il nous corrige, ça veut dire qu'il continue à croire que nous pouvons changer. Dieu livre Israël à Madian à cause de l'idolâtrie. C'est marqué. Les causes sont là. À cause de l'idolâtrie. C'est marqué, clairement. L'idolâtrie, c'est de s'attacher à des choses plutôt qu'à Dieu. Et les choses peuvent être très bonnes, très bonnes. On peut s'attacher à la famille, on peut s'attacher au travail, on peut s'attacher... C'est pas mauvais en soi. C'est mauvais quand on s'y attache plus que Dieu. Jésus a dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, etc., ça veut pas dire qu'il faut les haïr, ça veut dire que c'est la priorité. Et quand... on aime Dieu, eh bien on aimera aussi sa famille, etc., quelle qu'elle soit. Mais si on fait l'inverse, eh bien on est dans l'idolâtrie. Madian illustre Satan qui veut nous priver de la jouissance des bénédictions en Christ. Je reviens sur cette dimension que j'ai citée pendant la louange. Nous sommes à cheval sur 2 siècles qui sont parallèles. Le siècle présent, dans lequel notre âme et notre corps se trouvent, et le siècle à venir, qui a été inauguré par Jésus. Jésus a dit, je suis venu apporter le royaume. Jésus est venu apporter le royaume de Dieu. C'est en Jésus que le royaume de Dieu est venu. Et quand il est parti au ciel, il a dit, ceux qui acceptent Jésus par la foi, eh bien, leur cœur, leur esprit est ouvert. Il a dit à Nicodème, il a dit... Quelqu'un ne peut pas entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau. La nouvelle naissance permet à notre esprit, parce que Dieu est esprit, notre esprit d'être en communion avec Dieu. Et quand cet esprit est animé par l'esprit de Dieu, nous avons une relation avec le Seigneur. Et il faut maintenir cette relation. Si nous vivons dans l'idolâtrie dans le siècle présent, eh bien, comme nous sommes un et indivisibles, l'être humain, c'est esprit, âme et corps. Eh bien, le Saint-Esprit va quitter, va nous quitter. On va le froisser, on ne va plus permettre qu'il soit dans ce temple que nous sommes. Donc, vous voyez, le corps et l'âme, il faut faire attention qu'il reste le temple de Dieu. Sinon, on le profane et on fait partir l'esprit. Et après, on est dans l'idolâtrie. Le Seigneur ne peut pas eh bien, partager sa gloire avec des idoles. Et aujourd'hui, les bénédictions du siècle à venir sont présentes. Michel et moi, on était beaucoup influencés par John Wimber, qui a été utilisé par le Seigneur pendant qu'il vivait, où il permettait aux bénédictions du siècle à venir de se manifester au milieu de nous. Il y avait des choses incroyables que le Seigneur a fait avec lui, y compris des résurrections de morts. Il nous disait que quand il partait avec son équipe en Afrique du Sud, il y avait tellement de résurrections de morts qu'ils ont demandé au Seigneur le discernement, savoir qui il fallait prier, quelqu'un de 98 ans, on ne sait peut-être pas, volonté du Seigneur qui ressuscite des morts. Bon, voyez, ça c'était leur problème. Nous, on n'en est pas encore là. Mais ça, parce que la résurrection, c'est quelque chose qui fait partie du royaume du siècle à venir, qui est là. Bon, c'était un temps pour montrer que nous avons des bénédictions que nous pouvons jouir aujourd'hui. Il y en a qui jouissent de ces bénédictions aujourd'hui ? La paix, la joie, aussi des guérisons. Il y en a qui ont vécu des guérisons, pour eux ou pour leurs enfants. Amen. On a vécu beaucoup des guérisons. Vous savez, Michel est très attaché au Seigneur parce que tous, ils ont été guéris alors qu'ils étaient près de la mort dans sa famille. Et juste comme ça, Seigneur, guéris-le. Paf, guéris. On jouit des bénédictions du Seigneur. C'est vrai qu'on n'est pas dans un temps de réveil, donc c'est pas aussi clac, clac, clac. Mais n'empêche que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'il faut se battre. Hein, donc battons-nous. Si nous croyons que les bénédictions du siècle à venir sont à notre portée, eh bien prenons-les. Amen. Et c'est pour ça, purifions-nous de tout péché et approchons-nous du Seigneur et nous jouirons de ces bénédictions du siècle à venir dans le présent. Israël, à l'époque, ils étaient tellement dans la peur qu'ils se cachaient dans les cavernes, ils construisaient bien sûr des ravins et tout ça, et rien n'y faisait. Toutes leurs bénédictions qu'ils jouissaient partaient avec l'ennemi. Vous savez, quand on n'est pas ami avec Dieu, eh ben, l'ennemi est plus fort. Et l'ennemi, à l'époque, il était plus fort que Israël, il ne pouvait rien faire. C'était la razzia. Et un temps est arrivé où Israël a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Vous savez, quand on arrive au bout, on crie. Mais on n'a pas besoin d'attendre d'arriver au bout. Il y a des chrétiens qui attendent d'arriver au bout pour crier. Non. C'est vrai qu'en Égypte, ils étaient arrivés au bout. Ils ont crié. Et Dieu a entendu. Dieu entend. Dieu entend. Et là, il a décidé d'intervenir au bout de 7 ans. 7 ans, c'est un chiffre symbolique de Dieu. Il a décidé. Et au bout de 7 ans, eh bien, il s'est manifesté à Josué. Mais auparavant, il a envoyé un prophète. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le verset. Quand ils ont crié, Dieu a envoyé un prophète. On ne sait pas qui. C'est pas Gédéon. On ne sait pas quel prophète. C'est pas noté. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Est-ce que nous n'avons pas besoin de prophètes, nous avons la parole. Est-ce que quand nous sommes dans des temps de détresse, nous laissons la parole nous interpeller? Je suis très content de tous ceux qui suivent la théologie du royaume le samedi, parce que vous allez être fortifiés dans la parole. Vous allez croire réellement ce que c'est que le royaume. Parce qu'aujourd'hui, on parle du royaume, mais il y a 36 000 versions du royaume. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit du royaume? Et quand on est appuyé là-dessus, eh bien, on est mûr en Christ et on entend la parole du prophète, de la part de Dieu. Et le prophète leur disait, mais oui, mais vous êtes dans l'idolâtrie. C'est pour ça que Madian est plus fort que vous. C'est pour ça que Madian fait des razzias, etc. Il faut sortir de l'idolâtrie. Donc avant que Gédéon se lève, Dieu préparait le peuple pour leur montrer là où ça ne va pas. Laissons la parole nous parler avant que ce soit des temps de difficulté, de disette. La parole de Dieu est toujours là. Gédéon, ce qui est intéressant, c'est que Gédéon n'est pas le héros, vous savez, le super-héros voilà, qui vient avec une baguette magique, etc. Il est sensible avec le peuple. C'est quelqu'un qui sent la souffrance du peuple, qui lui-même souffre, vous voyez. Et je pense que les vrais leaders, les leaders qui sont utilisés par le Seigneur sans qu'ils s'enorgueillissent, c'est ceux qui sont avec le peuple, qui sentent, qui souffrent avec le peuple. Moi, je ne me sens pas au-dessus de vous. Je sens les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que l'Église rencontre, que les uns et les autres rencontrent, et que le Seigneur nous garde, Michel et nous, et moi, dans cette attitude d'humilité. Parce que dès qu'on se sent au-dessus, c'est fini. Ça vous monte à la tête, hein. C'est ce qui se passe avec ceux qui arrivent à un pouvoir. Parce qu'il y a une différence entre autorité et pouvoir. Quand on arrive à un poste qui est censé être un poste de gouvernement, si on y va avec le pouvoir, eh bien, on devient tyran. Si on y va pour exercer l'autorité, c'est autre chose. Parce que l'autorité se suppose être soumise à celui qui est au-dessus de nous. Amen. Et ça, le centenier romain l'a compris. Plus que tout en Israël, c'est lui qui l'a compris, c'est pas les Juifs. Lui, il a compris que dans l'armée, lui, il est soumis au supérieur, qui est soumis au supérieur, etc. Quand il y a un ordre qui vient, il est protégé. Parce qu'on lui demande quelque chose dont lui est simplement une chaîne de transmission. L'autorité, c'est ça. Il y a beaucoup de gens et de chrétiens qui ne comprennent pas la différence entre l'autorité et les pouvoirs. Ah, ils veulent le pouvoir. Non, non, touchez pas au pouvoir. Ça va vous détruire. Et Gédéon ne cherchait pas le pouvoir. D'ailleurs, il l'a montré après, quand ils ont proposé d'être roi, il dit non, 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 je ne veux pas être roi, c'est Dieu qui doit être votre roi. Donc Gédéon n'est pas insensible à la peine du peuple, il s'associe à la peine du peuple. Et alors là, il y a un ange qui vient, l'ange de la face. Je ne sais pas exactement ce que c'est que cet ange. Il vient très souvent dans l'Ancien Testament, que ce soit Moïse ou d'autres, etc. Certains pensent que c'est l'Éternel lui-même qui, au travers de l'ange, se révèle. Peu importe, ce n'est pas très important de savoir qui est cet ange. Mais cet ange, il vient, c'est l'ange de l'Éternel qui vient et qui l'observe. C'est intéressant. Au début, il l'observe, Gédéon. Avant de parler, les anges de Dieu, ils ne parlent pas beaucoup, contrairement à d'autres anges. Mais je n'évoquerai pas ça. L'ange de l'Éternel, il l'observe. Il regarde son cœur, il regarde sa motivation. Et il regarde s'il va apporter un sacrifice. On va parler du sacrifice. Le sacrifice, c'est reconnaître qu'il y a une séparation entre nous et Dieu et que c'est au travers du sacrifice que nous sommes protégés. Nous avons le sacrifice de Jésus qui nous couvre de son sang. Et là, il apporte un sacrifice, et une fois que le sacrifice est présenté, l'ange, eh bien, il intervient avec sa baguette, et le feu descend et brûle le sacrifice. Ça veut dire que Dieu accepte ce sacrifice. Il accepte ce sacrifice. Et du coup, il parle, l'ange, et il s'adresse à lui, parce que le sacrifice a été honoré et qu'il y a une communication qui va s'établir entre Gédéon et Dieu. Dieu est toujours fidèle. On l'a chanté ce matin. Dieu est bon. Il est fidèle, il est bon. Et sa bonté durera toujours. Et Dieu rassure Gédéon. Vous voyez, dans Galates, chapitre 6, verset 3, nous avons un passage qui va nous aider, parce que l'Ancien et le Nouveau Testament sont tout à fait liés. Il est dit, si quelqu'un pense être, Galates 6, porter les fardeaux les uns des autres, vous n'accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Et Gédéon ne pensait pas qu'il était quelqu'un. Au contraire, il a dit, mais je suis rien. Je suis le dernier de ma famille. Je suis dans cette famille qui n'est pas une famille illustre en Israël, et je ne suis rien. Il a reconnu sa faiblesse, son humilité. Et l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Dieu ne nous demande jamais notre propre force, mais il prend la petite force qu'on a pour dire, va avec la force que tu as, et moi je démultiplierai ta force. C'est moi qui vais me glorifier en toi. Amen. Et ça a été Paul aussi, cette attitude de Paul qui était lapidée, qui était passée par toutes sortes de difficultés dans sa vie. Eh bien, avec la force qu'il avait, il repartait et il avançait avec le Seigneur. Parce que Dieu se manifestait au travers de lui dans sa faiblesse. Gédéon est un type de ce chrétien que nous devons être. Même si nous sommes faibles, Dieu est fort. Notre capacité vient de Dieu. Ne soyons pas par contre dans la sinistrose. Il y a des chrétiens qui disent « Oh, je suis rien ». Non, ça c'est l'inverse. C'est pas bon non plus. Non, vous n'êtes pas rien. Vous êtes une personne précieuse. Vous êtes dans la main de Dieu. Voyez. Et il faut reconnaître la spécificité qui est la nôtre, que en Christ, nous sommes une perle précieuse, que l'ennemi ne peut pas toucher. Il a dit « Nul ne vous ravira de ma main. » Mais si nous sommes en Christ, ben oui, il y a toujours une condition, si nous sommes en Christ, ce n'est pas toujours le cas. C'est un combat quotidien, être en Christ. C'est de renoncer à soi, etc. Mais ne soyons pas dans la sinistrose, et Gédéon n'était pas dans la sinistrose, mais il exprimait sa faiblesse. Et Dieu agréait la victime du sacrifice, comme je le disais, par le feu. Et à ce moment-là commence l'action. Vous voyez, il y a toute une préparation, et là, Gédéon commence à agir. Et par où est-ce qu'il commence à agir ? Dans sa propre famille, dans sa propre maison. Si nous ne commençons pas, nous, avec nous, dans notre famille, on ne peut pas prétendre faire de grandes choses pour le Seigneur dans le monde. Il faut d'abord être capable de gagner la victoire dans notre famille, dans notre maison paternelle. Et c'est pour ça que Michel et moi, on a souhaité que le ministère de la Maison d'Élie soit à portée de cette église. Parce que nous, on a été bénéfice de ce ministère dans les années 90, quand la tempête a fait rage dans nos vies. Et on a vu quel est le bienfait de ce genre de ministère où on commence par soi. On commence par soi. Quand je suis revenu dans l'église le 5 septembre 98, j'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce qu'on a fait du ménage avant. Et on a dit, maintenant, ceux qui veulent nous rejoindre, on y va. Oui. Mais il faut commencer par soi. Sinon, on n'a aucune autorité. Si nous-mêmes ne sommes pas soumis, nous n'avons aucune autorité. Et donc, Gédéon, il a commencé par sa propre maison, sa maison paternelle. C'est vrai qu'il était responsable aussi de ce qui s'est passé dans sa maison paternelle. Pourquoi son père, dans son père, il y avait un autel à Baal et un poteau d'Achéra. Hein, poteau d'Astarté, si vous voulez, voilà. Baal et Astarté. Pourquoi ? Vous croyez qu'il n'en était pas aussi responsable ? Il s'en est jamais ému jusque-là. Donc vous voyez, Dieu a dit commence dans ta maison paternelle, là où toi-même tu as fait des compromis. Ok ? Et sa foi est faible. Sa foi est faible. Pourquoi elle est faible ? Que dit le texte ? Il le fait la nuit. C'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit fait. Parfois, on n'est pas à la hauteur de nos déterminations. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'il faut le faire. Alors ? Parce que s'il l'avait pas fait, c'était fini, ça s'arrêtait là. Mais il a fait la nuit. Il a pris son courage à deux mains. Il a vu l'ange. Il a vu Dieu qui lui donnait cette déclaration. Va avec la force que tu as. Il a emmené des copains et ils sont allés dans la maison paternelle pendant que tout le monde dormait et il a renversé l'autel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que son père s'est mis en colère contre lui ? Est-ce que sa famille s'est retournée contre lui ? Qu'est-ce qui vous fait dire que non ? Pardon ? Ouais. Et comment il l'a protégé ? Comment on voit qu'il l'a protégé ? Quel est le nom que, à partir de là, Gédéon a reçu ? Yerubal. Ça veut dire quoi, Yerubal ? Yerubal ou Jérubal, je ne sais pas, je ne connais pas l'hébreu. Mais c'est quoi ? Vous voyez, comme quoi, quand on lit la Bible, on passe souvent sur des détails. C'est quoi Yerubal ? Yerubal, ça montre l'attitude de son père. Allô ? Oui, il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas spéculer dessus. Il faut qu'est-ce qu'elle dit ? Son père l'appelle Yerubal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens bien intentionnés, je veux dire mal intentionnés, qui sont allés voir son père. On va dire, mais dis donc, ton fils là, te rends compte là ? Te rends compte ce qu'il a fait là ? Il est allé chez toi là, hein, de nuit, il a détruit l'hôtel de Baal et d'Astarté, c'est toi qui l'as établi, tu restes quoi ? Tu restes les bras ballants là ? Vous voyez, il y en a toujours qui excitent. Hein. Il y a toujours que des gens qui, hein, qui, voilà, qui veulent... Et qu'est-ce qu'il a dit de son père ? Que Baal se défende, qui plaide. Que Baal plaide. Si c'est Baal, ben s'il est vivant, s'il a une capacité, ben qu'il le fasse. Voilà. Ça vous dit pas quelque chose d'un autre type de gars qui confrontait les puissances spirituelles, Élie? Qu'est-ce qu'il a dit, Élie? Qu'est-ce qu'il a dit, Élie? Quand il se scarifiait, là, hein, et que pendant des heures, et autour, ils étaient Baal et Astarté, etc. Ils étaient 450 plus 470 Baal et Astarté. Il y avait plus de 900 prêtres qui étaient établis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ben, ils ont mis au défi. Ils ont dit, continuez à vous scarifier. Continuez. On va voir s'il va vous répondre. Vous voyez? Parce que lui, il connaissait Dieu. Il savait que lui, lorsqu'il va aller invoquer ce qu'il a fait après, ben Dieu est venu, il a fait descendre le feu, et il a manifesté sa gloire. Ça, c'est des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi, qui croient que dans la plus grande adversité, 900 prêtres, avec Achab et Jézabel qui voulaient sa mort, il a dit, ben, qu'ils plaident maintenant. Vous voyez, il faut mettre au défi l'ennemi. L'ennemi, il existe, l'ennemi, il est puissant, l'ennemi règne sur la terre, mais il n'est pas vainqueur. Il n'y a que des hommes et des femmes de foi qui peuvent le mettre au défi pour montrer que c'est Jésus qui règne. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. C'est que nous devons faire descendre le royaume de Dieu au travers de notre foi. Alors? Non, c'est nouveau pour certains. Ça, c'est le royaume de Dieu, l'enseignement du royaume. Et là, nous avons un exemple où Gédéon a eu le courage et il était encouragé parce que son père, sa propre famille, ne l'a pas accablé, descendu, il a dit bah, que Baal plaide. Jérubal, il s'appelait Jérubal. Et du coup, il a continué à partir, donc avec cette assurance qu'il était sur le bon chemin. On voit là qu'à ce moment-là, Satan, il attaque rapidement. Là, les choses se précipitent. Dans le camp ennemi, les choses se précipitent. D'un seul coup, là, le texte nous dit que Madian, d'un seul coup, il rassemble les forces. Vous voyez, quand Satan, il connaît les choses spirituelles. Et là, il dit, il ne faut pas perdre de temps, là. Hein, il a détruit l'hôtel chez son père. Maintenant, il faut y aller. Hein, parce que sinon, il va me faire du massacre dans mon camp. Vous voyez. Donc, c'est là que les choses ont changé. Il a commencé à avoir peur dans le camp ennemi. Et il faut que vous fassiez peur dans le camp ennemi. Non pas avec votre force, mais avec votre foi. Avec notre foi, l'ennemi doit avoir peur. Et pas nous. C'est pas nous qui ne venons retrancher, aller dans les cavernes et tout ça. C'est lui qui doit se retrancher. Amen. Mais c'est notre foi. C'est par la foi, c'est pas par les déclarations de paroles. C'est notre foi. C'est dans ces conditions-là qu'on voit que l'ennemi a peur. Et là, il attaque rapidement. Il se dit, bon, là, je suis mal parti parce que Gédéon, là, il commence à... Hein, être de plus en plus nerveux, là, de plus en plus téméraire dans son combat, et il attaque. Et non seulement lui, mais il prend des copains, tous les rois autour, il fait alliance, et il monte pour le combat. Ça me fait penser à Narnia, hein, vous vous rappelez, où à la fin, eh bien, toute l'armée se lève. Et là, on voit que Gédéon est toujours aussi faible dans sa foi. Après avoir vu l'ange, après avoir vu que, malgré le fait qu'il ait descendu le poteau d'Akera et l'autel, eh bien, il est toujours tremblant dans sa foi. Mais vous voyez, c'est pas un problème. C'est pas un problème d'être tremblant dans sa foi. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il a rencontré le centurion, il a dit, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous avez le droit de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et Gédéon a dit, bah, il a fait les toisons. Il a dit, bon, bah, Seigneur, je veux bien, mais il me faut absolument une assurance, là, hein, parce que l'armée est tellement grande que là, il faut que je sois sûr que c'est toi qui m'emmènes au combat. Et le Seigneur lui en veut pas. Il ne s'agit pas de mettre des toisons comme ça, voilà, pour un oui, pour un non, tiens, il faut que j'achète une maison, une voiture, je mets une toison. C'était un grand classique. Non, là, on est dans un réel combat où, effectivement, il peut avoir peur de cette armée qui est devant lui. Et derrière, il faut qu'il entraîne tout Israël. Donc, il donne en des signes une toison. Et à partir de là, Dieu prend les choses en main. On est au chapitre 7 des juges. Et là, on a quelque chose d'intéressant, c'est le triage. Vous avez remarqué que Quand Gédéon fait, on appelle ça la circonscription, hein, qu'on appelle l'armée, les hommes vaillants, pour aller au combat, il y en a eu 32 000 qui se sont présentés. 32 000 avec les armes à la main, les épées et tout ça, qui étaient capables de se battre, qui se sont présentés. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Dieu a conduit Gédéon à faire un tri. Les premiers qui sont partis, il y en a eu 22 000. Ils sont restés 10 000. Et quel est le critère qui a prévalu à ce départ ? Si vous l'avez lu, c'est la peur. C'est la peur. Alors, c'était des Juifs israélites. Ils avaient Dieu pour il y avait le temple, il y avait ils n'étaient pas supposés avoir peur. Vous avez peur, vous, quand vous avez une armée énorme devant vous, un problème impossible à régler? Non? Quels sont ceux qui ont peur? Ouais, c'est un élan naturel d'avoir peur. Le problème, c'est que ceux qui ont peur, ils ont été éliminés. Donc, on va voir après quels sont les critères pour rester dans l'armée. Ils ont profité de la victoire, parce qu'après, tout Israël était béni, hein, c'est pas un problème. Mais Dieu ne pouvait pas envoyer des Israélites qui ont peur. Vous ne pouvez pas. Parce que vous savez la fin, vous savez ce que Dieu a fait. Ceux qui avaient peur, ils n'auraient pas pu faire ce que Gédéon a demandé. Parce que la peur entraîne beaucoup de choses. La peur, ça veut dire qu'ils n'avaient pas confiance dans l'autorité de Dieu qu'il a donnée à Gédéon. Et ils ne reconnaissaient pas en Gédéon l'autorité parce que lui-même avait peur. Lui-même était faible. Bon, ça se comprend. Vous voyez, on est dans la sagesse humaine. Tout à l'heure, on a lu dans Corinthiens que la sagesse humaine n'est pas compatible avec la sagesse de Dieu. Elle n'est pas compatible. C'est tout. Donc, si on marche par la foi, on est dans la sagesse de Dieu. Mais si on est dans la sagesse humaine, on est vulnérable par rapport aux puissances. Parce que là, c'était puissant derrière. C'est Satan et ses puissances qui emmenaient Madian, puisque Dieu l'a laissé faire. Et il a dit que Dieu a permis que Madian puisse persécuter Israël. Donc, c'était Dieu qui était derrière. Ce n'est pas juste une armée. C'est toute l'armée, puissance céleste. 22 000, vous rentrez chez vous. Il reste 10 000. Et après, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il a dit, c'est encore trop nombreux. C'est trop nombreux. Parce que je veux que la gloire me revienne à moi tout seul. C'est ça le souci du Seigneur. Parce que si nous prenons une partie de la gloire, c'est le début de la fin de notre vie. Parce que c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie amène toujours des droits à l'ennemi. C'est le problème des droits. Alors, de 10 000, ils sont passés à 300, il y a 9 700 qui ont été éliminés. Quels sont ceux qui étaient éliminés? C'est ceux qui se sont mis à genoux. Qu'est-ce que ça nous parle, ça? Ceux qui sont restés, les 300, ils ont l'apello. Non, pas forcément l'humilité, parce que ceux qui étaient à genoux, on pourrait dire que c'est l'humilité. Quel est le critère particulier qu'on peut appliquer à nous, hein, parce qu'il faut toujours appliquer les choses à nous quand on lit la parole. Ouais, je sens que Laurence a une réponse. Non? Tu étais en train de dire quoi? Ah, ouais, c'est une façon de raisonner. Franz, non? T'as une idée? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Parce que Dieu ne lui a pas donné les critères au départ. Dieu a dit, voilà, c'est moi qui te donnerai le critère à la fin, tu sépares, et je te dirai, voilà, ce qui me reste. Donc il y avait 300. Et en fait, les 300 qui restaient, ils ont l'appello. C'est-à-dire qu'ils étaient vigilants pour être prêts au combat. Ils n'avaient pas besoin de se lever pour partir. Vous voyez, on est dans le combat. Il restait vigilant pour le moindre ordre que Gédéon allait donner, ils étaient prêts. Est-ce que nous restons vigilants? C'est ça l'application de nos vies. Est-ce que nous avons tendance à se dire on prend nos aises. Vous voyez, le confort, j'ai pas rien contre le confort, hein. Beaucoup les belles voitures et tout ça aussi, bon, je suis comme tout le monde, c'est pas le problème. Mais quand on est dans le royaume de Dieu, on parle du royaume de Dieu, on parle des combats, on est dans des combats. Vous pensez que les combats sont finis? Voilà. Donc si on est dans un combat, il faut être prêt, vigilant, prêt à intervenir lorsque Dieu nous parle, prêt à donner une prophétie, prêt à donner une parole, prêt, voilà, prêt d'une manière générale à être utilisé par le Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que les choses de ce monde nous encombrent, non pas qu'elles sont mauvaises, mais elles nous encombrent et il faut être vigilant. Et là, les 300, ils étaient vigilants, donc ils ont fait un geste de vigilance et Dieu l'a vu et il a considéré que c'est ceux-là qui allaient aller au combat. Faisons attention que les idoles ne sont pas des mauvaises choses. Ce sont souvent des bonnes choses qui sont poussées trop loin. La famille, par exemple, c'est une très bonne chose. Mais quand la famille prend la place de ce qui est à Dieu, voilà, vous voyez, c'est toujours pareil. Entre l'idole et l'adoration de Dieu, ben, quelles sont nos priorités? C'est une question de priorité. Donc là, nous sommes en face de 300 qui ont été sélectionnés par Dieu pour le combat que lui allait mener. Gédéon n'est toujours pas rassuré. Voyez-vous, il reste toujours faible dans sa foi. Et là, Dieu en prend compte. Dieu est bon. On l'a chanté. Dieu est bon. Et il lui dit encore un signe. Il dit, mais écoute, descends. Dans la nuit, tu descends. Et je vais te montrer quelque chose qui va te rassurer. Et il descend dans le camp. En plus, il lui laisse prendre son serviteur avec lui. Il descend dans le camp. Et qu'est-ce qu'il entend, la première tente qu'il arrive? Ben, il entend qu'un des Madianites dit à l'autre, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu une gerbe d'orge qui descendait, qui roulait dans le camp et qui anéantissait le camp. Et l'interprétation qu'il en donne, c'est pas juste le songe, il dit, c'est l'armée de Gédéon qui, avec leurs épées, vont nous transpercer. Ils n'avaient pas d'épée. Hein. Vous voyez comme quoi Dieu, il parle. Pendant que vous êtes dans le sommeil, Dieu agit. Amen. Si vous avez la foi, Dieu va faire son travail. Et vous n'avez simplement qu'à lui faire confiance. Et c'est là que Josué, après ce coup de pouce de Dieu, a pu remonter. Et le matin, il a dit, allons-y, le camp est à nous. Voyez-vous, toute une série de préparations. Dieu prend soin de nous, il nous traite pas comme des minables si nous n'avons pas la foi. Simplement, disons, Seigneur, viens au secours de ma foi. Aide-moi à avoir la foi, à croire l'invisible, à croire les choses que toi tu vas faire. Et donc là, hop, il déclenche le démarrage. Le lendemain matin, il n'attend pas et il descend. Et là, il y a trois armes qui sont utilisées. La première, c'est les trompettes. La trompette, c'est l'équivalent de la parole de Dieu. C'est la proclamation de la parole de Dieu. Vous voyez, là, il utilise le témoignage de la parole. Nous devons être des témoins dans le monde et proclamer la parole. Amen. Parce qu'elle est véritable. Et ne pas avoir peur de l'ennemi. Et là, il utilise les trompettes. Ensuite, après, il utilise des cruches vides. Les cruches, c'est le symbole de nos vases dans lesquels nous gardons des choses précieuses. Nous gardons le Seigneur dans nos vases de terre qui vont se terminer par être brisés. Nous reconnaissons notre faiblesse, notre humilité, mais dans ces vases, le Seigneur place quelque chose. À l'époque, il a placé une torche, il a placé des torches qui amènent la lumière. Et dans nos cœurs, dans ton cœur, il a placé Christ, qui est la lumière du monde. Amen. Christ qui est la lumière du monde. Il n'avait aucune épée, il n'avait ces choses folles du monde qui confondent les sages. Ils sont allés au combat avec ces trois choses, les trompettes, la cruche et les torches. Et quand ils ont brisé la cruche, la lumière a brillé. Ne mettons pas notre lumière sous le boisseau, mais laissons-la éclairer pour que les hommes et les femmes voient cette lumière de Christ en nous. Amen. Ça, c'est notre témoignage, c'est notre foi. Alors, je ne dis pas par là que vous devez aller dans les supermarchés et dire, voilà, Jésus, etc. Ils doivent le voir dans votre attitude, dans votre manière de répondre, dans votre manière de faire, vous voyez. C'est ça, être animé de Christ et de son amour et de sa vie. Et les gens le voient, ils le sentent, ils le ressentent. Et quand les cruches sont brisées, ça parle de notre renoncement de notre moi. Ce qui porte Jésus est bien d'être brisé. Et Gédéon était un homme brisé. Un homme qui voilà, il ne se prenait pas pour un général. Et il était comme... ses vis-à-vis étaient dans l'humilité. Ensuite, il y a quelque chose qui est important. C'est que les 300 qui étaient avec lui, ils ont obéi. Ils ont obéi à l'autorité que représentait Gédéon. Ils ont certainement dû se dire qu'il est fou, qu'il n'a rien compris. Et ça, c'est normal. Vous pouvez très bien vous dire ça dans votre tête. Mais Dieu place des hommes et des femmes en autorité. Ce sont des offices. Et ces offices, bien sûr, s'ils sont mal remplis, Dieu peut les enlever, ces hommes et ces femmes. Mais quand il y a un office d'autorité, eh bien, si vous obéissez, vous êtes béni. Si vous n'obéissez pas, ben vous êtes en dehors du parapluie qui vous protège, vous êtes tout seul. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont plus dans les églises, qui vont même dans les églises, ben, ils ne reconnaissent pas les autorités, parce que depuis 68, les autorités ont été détruites. On ne veut plus d'autorité sur nous. On veut être tout seul, soi-même. Et les chrétiens suivent cette pente qui est dans le monde. Mais vous savez, l'autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et aujourd'hui, pourquoi l'Église est vulnérable? Parce que toutes les autorités, bah, on les remet en question. On les remet en question. Mais la parole de Dieu n'a pas changé. Les autorités existent toujours. Elles sont pour notre bien. Et là, ils devaient obéir à l'instant même où Gédéon a dit « Vous tapez dans les cruches » et les choses arrivent, que là, ils ont eu la victoire. Amen. Il faut les leaders. Il faut... Dieu a créé le leadership pour une raison, et elle est toujours valable. Il faut rester soumis à l'autorité. Gédéon, à la suite de la victoire, il a évité un piège. C'était lequel? Comme tout Madian a été massacré, ils ont eu une victoire totale. Quelle était l'attitude naturelle du peuple? C'est de le faire roi. En disant, Gédéon, depuis 7 ans, on est dans la misère la plus pauvre, etc. Est-ce que tu ne veux pas être notre roi? Et quelle est la réponse de Gédéon? Il dit non, ni moi, ni mon fils. Parce que c'est l'Éternel qui veut être votre roi. Ça s'est reproduit avec Josué. Hein, où le peuple dit, on veut un roi. Il a donné Saül. Samuel a dit non, il connaissait cette histoire de Gédéon. Gédéon a échappé au piège parce qu'au fond de lui-même, il ne cherchait pas le pouvoir. Au fond de lui-même, il ne cherchait pas de diriger. Il a été utilisé par Dieu, par obéissance, mais il ne cherchait pas. Mais si on a un point d'accroche pour dominer, eh bien, on veut l'autorité, on veut la puissance, en fait, pas l'autorité. On veut utiliser la puissance parce que, voilà, quand on domine, on a la puissance. Par contre, tout de suite après, il est tombé dans un autre piège, c'est lequel? Parce que l'ennemi cherche les défauts de notre cuirasse. On a tous des défauts. Hein. Et plus on devient leader, plus l'ennemi cherche le défaut de la cuirasse. Donc, faisons attention, quand on est en autorité, il cherche le défaut. C'était quoi le défaut de Gédéon? Voilà, Ruben, il a donné la bonne réponse. Le défaut de sa cuirasse, c'est qu'il n'a pas complètement coupé avec l'idolâtrie. Comme je vous l'ai dit, il a laissé son père mettre l'autel de Baal et d'Astarté, les idoles, quand même les plus graves, on peut s'imaginer. Il a détruit ça sur ordre de Dieu, de l'ange, mais lui-même avait laissé. Et donc, vous voyez, il n'a pas fait la maison d'Élie. S'il avait fait la maison d'Élie, il aurait pu chercher les racines. D'où l'intérêt de la maison d'Élie. Ne cherchant pas les racines, bon, il a été utilisé par Dieu, des grandes victoires et tout ça, mais quand le peuple est venu en disant « Mais écoute, deviens notre roi, parce que on n'a jamais vu un truc comme ça, maintenant on est en paix », d'ailleurs, ils sont restés 40 ans, tout le temps de la vie de Gédéon, en paix. Tout de suite après, il a dit « Mais écoutez, apportez-moi le butin des rois, là, l'or, les beaux vêtements et tout ça, et on va faire un éphod. » C'est quoi un éphod? Pardon? Non, justement, Marie-France, dans ce cas-là, c'est une idole. C'est-à-dire, l'éphod, dans ce cas-là, on va en faire une idole. Voyez-vous? Le réflexe, il a refusé d'être roi parce que le pouvoir ne s'intéressait pas, mais l'idole était sensible. Du coup, il a fait une idole avec ça. Et il l'a placée dans sa ville, Ophra. Il l'a placée dans sa ville. Et la parole de Dieu nous dit qu'après ça, tout Israël est retourné à la prostitution des idoles. Voyez-vous ? Donc il s'est mis sous la malédiction, c'est lui. Qu'est-ce qui lui a pris de demander tout l'or et l'argent, etc., alors qu'il devait être brûlé, etc. Enfin bon, dans la loi, il y avait des consignes. Ben voilà, on va faire une... Comme ça, on va penser un mémorial, on va penser... Voilà, ça peut être une bonne idée. Voyez que les bonnes idées peuvent conduire à des désastres. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est dramatique. Si vous lisez le chapitre suivant, qu'est-ce qu'on apprend? Le fameux refus que Gédéon a fait en disant « Non, je ne veux pas être roi ni mon fils », son fils Abimélec est devenu roi. Il a accepté d'être roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un truc horrible qui ne s'est jamais vu en Israël. Il a pris ses 70 frères et il les a tués sur un rocher en un seul jour. Imaginez le carnage, le carnage. C'est horrible, on n'a jamais vu ça. C'est une histoire unique, lisez-le. Abimélec, qui voilà, s'est pris du pouvoir, il a accepté d'être roi, mais il a éliminé tous ses frères qui auraient pu demander. Vous voyez, ça, le pouvoir. Il a le pouvoir. Et il l'utilise pourquoi? Pour être un meurtrier de tous ses frères. Il a éliminé tous ses frères. Comme ça, il est tout seul le roi, le successeur de Gédéon. Vous voyez un petit peu? Et ça s'est passé. Bon, Dieu a attendu que Gédéon meure pour voir ça. Mais c'est la faute de Gédéon. C'est lui qui a placé sa famille sous la malédiction avec cette idole. C'est terrible, hein, les conséquences de nos choix. Faisons attention. Et vous savez comment il est mort, Abimélec? C'est le pire de ce qui peut arriver à quelqu'un qui veut être en autorité, qui veut concaner, etc. Pour un machiste. C'est une femme qui, du haut de la tour, a pris un morceau de meule de moulin, c'est assez lourd, et qui l'a balancé. Et c'est tombé sur son crâne. À tel point qu'il n'est pas mort sur le coup, il a dit à son coéquipier, il a dit, balance-moi l'épée, parce qu'on va dire que c'est une femme qui m'a tué. Il ne pouvait pas supporter. Voyez-vous, l'orgueil d'Abimélec, et les conséquences du choix de Gédéon, qui a été utilisé de manière extraordinaire par Dieu, c'est une leçon d'humilité et de dépendance envers le Seigneur. Amen. Je terminerai là. Relisez ce passage. Il est extrêmement évocateur aussi dans les temps que nous vivons. Si nous pouvons être dans l'humilité une fois, mais il faut le faire tout le temps, parce que l'ennemi continue à nous harceler. Et plus nous voulons le servir, plus il va chercher les défauts de notre cuirasse. Et il les connaît. Donc passons par la maison d'Élie. C'est pour ça qu'on est très attaché à ce ministère. Parce que si on veut servir le Seigneur et qu'on n'a pas enlevé les droits, l'ennemi les utilise. Allô ? J'ai été clair ? Donc, faisons le ménage d'abord chez nous, le grand ménage, hein, tout ce que nous pouvons faire pour enlever et alors les droits à l'ennemi, et alors nous pourrons servir le Seigneur sans qu'il y ait des conséquences néfastes comme l'a été pour Gédéon. C'est vrai que pour 40 ans, il a amené la paix. Mais après, c'était comme s'il n'y avait rien eu. Voyez. Donc c'est dramatique, mais en même temps évocateur. La parole de Dieu est écrite pour notre édification, pour notre compréhension, à condition que nous nous laissions éclairer par elle. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui, ce matin, nous a évoqué ce que tu as fait au temps de Gédéon, cette grande victoire. Seigneur, que nous-mêmes, qui sommes confrontés à des défis, nous puissions les relever, Seigneur, avec la parole de Dieu, et avec l'humilité, qui est la seule capable de te laisser la gloire. Parce que toi seul, Seigneur, tu ne veux pas partager ta gloire avec un autre, et surtout pas avec l'ennemi. Alors nous nous remettons entre tes mains pour que toute gloire te revienne, et que tu nous aides à voilà, nous laisser purifier, nous laisser enlever les droits qui peuvent donner des droits à l'ennemi, afin que nous soyons toujours vainqueurs en Jésus-Christ. Amen.